La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette conversation littéraire. Conversation littéraire consacrée aujourd'hui au mal, au haut mal ou au très bas. Nous verrons de quelle façon le passé infuse ou diffuse dans nos sols gorgés de sang et de souvenirs, sols parcourus d'ossements que les charrues remuent et mélangent aux cailloux de nos plaines. J'ai la joie de recevoir trois éminents invités. L'un autrichien et romancier, Joseph Winkler, dont le roman « Le Chant » vient d'être publié aux éditions Verdier. Bonjour Joseph Winkler.
Bonjour.
Le second est universitaire, spécialiste de littérature allemande et traducteur du premier. J'ai nommé Bernard Banoun. Bernard Banoun, bonjour.
Bonjour.
Et le troisième, un historien, l'un des plus grands spécialistes du nazisme, Johann Chapoutot. Bonjour Johann Chapoutot.
Bonjour Mathias Sénard.
Johann Chapoutot, je reviendrai vers vous tout à l'heure. Commençant par vous, si vous le voulez bien, Joseph Winkler. Vos propos seront traduits par Bernard Banoun ici présent, traduits et interprétés consécutivement. Joseph Winkler, vous êtes écrivain, romancier. 10 de vos ouvrages ont été traduits précédemment aux éditions Verdier par Bernard Banoun. Si je ne me trompe pas, Le Chant étant le 11e. Vous avez obtenu le Grand Prix d'État autrichien, le Prix Georg Büchner. Et Joseph Winkler, Le Chant est un retour à ces paysages de Carinthie qui vous ont vu grandir et qui vous habitent, et à ce village dont j'ai l'impression qu'il ressemble grandement à celui de Quand l'heure viendra, par exemple, ou de d'autres romans que vous avez publiés auparavant, ce village en forme de croix qui n'est peut-être pas si différent du village dans lequel vous avez grandi, Joseph Winkler.
Ich habe erst vor einigen Jahren, also vielleicht 2 Jahre, bevor ich Le Chant auf Deutsch lastig Heimgeigenvater oder den Tod ins Herz mir schreibe, habe ich erfahren, dass der aus Klagenfurt stammende Judenmassenmörder Odilo Globocnik von den Engländern 1945, im Mai 1945, auf einem Feld verscharrt worden ist, ungefähr einen Kilometer von meinem Heimatdorf entfernt, der auf einem Feld verscharrt worden ist, also wo wir Kinder gearbeitet haben.
C'est seulement 2 ans avant d'écrire le livre qui paraît maintenant, Le Chant en français, j'ai appris que l'assassin de masse Odilo Globocnik, un assassin de juifs, avait été enseveli, enfoui dans un champ qui était situé à 1 kilomètre de mon village natal, donc en 1945. Et c'est un champ où, enfants, nous travaillons. Enfants de paysans, souvent pieds nus, et c'est voilà un fait monstrueux, inquiétant, incompréhensible. Et sur ce champ, donc, nous avons travaillé là où, en dessous, il y avait le cadavre d'un assassin de juifs qui avait tué, comme il le disait, 2 millions de juifs. Et quand je l'ai appris, quand j'ai appris que ce champ contenait ce cadavre, tout le village natal a explosé, en fait, comme un objet littéraire. Et cela d'autant plus du fait de mon père, car mon père, avec ses frères et beaux-frères, se racontait souvent des histoires de guerre, disait Hitler aurait dû tuer 2 fois plus de juifs, Mauthausen il l'enfermait beaucoup trop tôt, et ce père depuis longtemps me racontait beaucoup sur la guerre, mais il n'avait jamais parlé de ce champ. Et il n'y avait jamais dit qu'un des êtres les plus horribles de l'histoire était enfoui là. Et donc, le livre commence justement par cela. Pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé? C'est l'histoire du livre, et moi, je me suis plongé là-dedans, et par la force des choses, dans le village, dans l'histoire de l'enfance et de la jeunesse qui remonte.
Joseph Winkler, ça signifie aussi relire vos romans précédents, parcourir ce village de l'enfance et rajouter peut-être, ou en tout cas transformer d'une certaine façon ce qui a déjà été écrit en y rajoutant cette présence dans le sol de ce qui infuse avec les ossements de Odilo Globocnik.
Mein Thema ist sehr klein. Ich habe das heute schon also bei der Liberation auch gesagt. Es hat nur die Größe eines Friedhofs. Ich war einmal mit meiner Familie in Mexiko beim Dia de los Muertos am Fuße des Vulkans Popocatépetl auf einem kleinen Friedhof, der über und über mit verschiedenfarbigen Tagetesblüten geschmückt worden ist. Also jedes Grab ist ausgepolstert mit Blumen. Unzählige Kerzen haben auf diesem Friedhof gebrannt, also keine 10 Zentimeter langen, sondern meterlange. Und da habe ich bei fast jedem Grab habe ich dann gesehen, wie jemand mit einer Eisenstange.
Mon thème est très petit. En fait, il a la taille d'un cimetière. Une fois, avec ma famille, je suis allé au Mexique et dans un village au pied du volcan Popocatépetl, c'était le jour des morts, Dia de los Muertos. Et donc, dans ce cimetière, donc un cimetière décoré de fleurs, d'innombrables soucis, avec des bougies hautes d'un mètre qui brûlaient, et auprès de chaque tombe, en tout cas de très nombreuses tombes, il y avait des gens qui, sur les tombes, étaient armés d'une barre de fer et ils renfonçaient cette barre de fer dans les tombes. Et nous avons demandé, mais que se passe-t-il ? Eh bien, ils répondaient que c'était pour réveiller les esprits des morts. Et cela, en fait, c'est peut-être une métaphore de mon écriture. Quand j'ai appris que les céréales récoltées dans ce champ, elles s'étaient récoltées dans un champ où était enfoui un cadavre, j'ai dû recommencer, en quelque sorte, moi-même mon travail d'écriture, et j'ai pris moi-même cette barre de métal pour l'enfoncer dans l'histoire de la famille. Bon, la barre de métal, dans mon cas, c'est la plume. Et donc, ce livre, en effet, il est lié, en effet, à toute l'histoire de mon écriture, à mon œuvre. J'ai recommencé comme si je n'avais encore jamais écrit. Et j'étais curieux du résultat. Ce livre, il est donc né de cette manière. C'est le même thème depuis 35, 40 ans. J'ai publié une vingtaine de livres chez Zurkamp et j'ai recommencé avec mon expérience d'écriture, avec mon expérience de lecture, avec mon expérience de vie. J'ai repris le tout pour, moi aussi, réveiller les esprits. Et ces esprits, ce sont toujours les mêmes et en même temps, ils sont toujours différents.
Joseph Vinclair, ce qui est très frappant dans vos livres, c'est cette présence des ossements. Vous parlez des tombes, mais ce sont les cadavres eux-mêmes, les ossements, qui jouent un rôle. Je me souviens que, justement, dans « Quand l'heure viendra », il y avait cette espèce de grande soupe d'ossements qu'on remuait, et c'était les os eux-mêmes qui infusaient et fabriquaient une sorte d'élixir dont on enduisait les yeux des chevaux pour en éloigner les insectes, comme s'il y avait quelque chose de puissant dans l'ossement lui-même. Et là, dans le champ, c'est un champ de cadavres. Alors évidemment, il y a Odile Globotchnik, mais il y a aussi toute cette présentation des corps autour de vous, les corps de vos grands-parents que vous voyez, que vous apercevez, les corps de ces jeunes enfants entourés de fleurs sur une photographie. Bref, il y a là toute une présence inouïe de la mort par le cadavre, le corps. Et ça me semble être vraiment un des thèmes qui traverse votre œuvre, Joseph Vinclair.
Ja, ermutigt hat mich also von meiner Kindheit an also die Literatur. Zuerst hatten wir die Karl-May-Bücher, vor denen habe ich 30 oder 40 gelesen. Und als 14-jähriges Bauernkind also habe ich als erstes, als großes literarisches Werk, habe ich Die Best von Camus gelesen.
Depuis l'enfance, j'ai été en fait encouragé par la littérature. J'ai commencé par des livres de Karl May, j'en ai lu une quarantaine, et à 14 ans, l'enfant de paysan que j'étais a lu une grande œuvre littéraire, donc La Peste de Camus. Et Peter Handke dit de son propre itinéraire, je viens d'Homère, et moi je dirais je viens de la littérature française moderne. Que j'ai rencontré donc dans l'œuvre de Camus, et puis ensuite il y a eu Sartre, il y a eu Saint-Exupéry et d'autres, et ma jeunesse je l'ai passée en fait à lire. Quand mon premier livre est paru, en fait, il s'agissait d'un livre, certes, sur l'enfance et la jeunesse, mais c'était plutôt une sorte de livre, voilà, une sorte de métaphore de l'état dans lequel j'étais à l'époque. Je ne pouvais pas vraiment raconter. C'est par la suite que la narration est arrivée, et on dit que je raconte toujours la même chose, mais de ce point de vue-là, je rappellerai cette phrase de Camus, qui, traduite en français, donnerait « Il faut avoir la force de choisir ce qui est important pour soi et d'y rester attaché, sinon mieux vaut mourir ». Ce livre, et notamment et aussi un livre précédent, Quand l'heure viendra, je l'ai fait à partir d'histoires racontées par mon père. Mon père qui est mort à presque 100 ans et qui aurait maintenant 120 ans. Dans ce livre, en effet, c'était les ossements et cet élixir qui s'appelle en autrichien le Panda Pil, qui est fait à partir d'ossements que l'on laisse macérer. Et ce livre, c'est comme une sorte de tapis en prose. Il y a plusieurs motifs qui reviennent, qui se ressemblent et qui sont reliés, entretissés par des nœuds. Pour ma part, quand j'écris, cette manière de faire, et qui vaut aussi pour le chant, ce n'est pas, c'est une sorte de truc, c'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui écrit des romans. Je relis des histoires entre elles, comme justement dans un tapis. L'écrivaine allemande Marie-Louise Kaschnitz, dans un de ses livres qui s'appelle Steht noch dahin, écrit en fait des proses qui sont sur une page. Chaque page est une histoire. Moi, je ne voulais pas. Je voulais relier tout ça, tisser ces histoires pour en faire un texte plus long. Et un autre qui m'a beaucoup encouragé, c'est Thomas Bernhard, qui disait « Mon thème, c'est la mort. Que vous les vouliez ou non, j'écris sur la mort. » Ça peut vous plaire, ça peut vous déplaire, mais j'écris là-dessus. Et un autre qui m'a aussi beaucoup marqué, et auquel j'ai beaucoup lu, c'est Jean Genet. Là aussi, une sorte d'encouragement est venu, grâce aussi, dans le cas de Genet, à sa langue imagée. Et chez moi, je crois, comme chez Genet, il n'y a que des images. Et chez Genet aussi, la mort est un des thèmes principaux. C'était donc important pour moi, et je reviens à cette phrase de Camus, hein, il faut avoir la force de choisir ce qui est important pour soi et d'y rester attaché, sinon mieux vaut mourir. Et donc, de ce point de vue-là, en effet, je n'écris que sur la mort.
Vous écrivez que sur la mort, mais à la différence de Thomas Bernhard, c'est la mort à la campagne. Ce qui infuse, c'est aussi la nature qui est là, cette présence très forte de la nature qui s'empare des morts un peu. Les racines se nourrissent des morts. La livèche, par exemple, passe sous le mur du cimetière. Le potager est au bord du cimetière. Le maïs, que vous appelez le turc, tue avec les gaz qui émanent de la fermentation. Donc c'est aussi un rapport très différent de celui de Bernhard à la mort, plutôt bien sûr très lié avec les forces de vie finalement, qui sont celles de la nature, qui s'emparent de tous ces morts pour les recycler en quelque sorte dans la littérature, comme elles le font dans la nature.
Also ein sehr wichtiges Motiv für mein Schreiben und dieses Schreiben über den Tod, also zum Tod, dieses Fantasieren mit dem Thema des Todes, dürfte wohl damit zusammenhängen, dass mich, als ich ein dreijähriges Kind war, meine Tante in ein Aufbahrungszimmer geführt hat, in dem meine Großmutter mütterlicherseits, die im Zweiten Weltkrieg drei Söhne verloren hat.
Donc, en effet, c'est un motif très important pour moi dans le rapport à l'écriture, une écriture sur la mort, une écriture pour la mort. C'est sans doute lié à voilà une année, quelque chose qui remonte à l'âge de où j'avais 3 ans, quand ma tante m'a conduit dans une chapelle ardente où était exposé le cadavre de ma grand-mère maternelle qui avait perdu 3 fils durant la Seconde Guerre mondiale. J'avais 3 ans, donc ma tante m'a conduit dans cette pièce. Elle m'a soulevé, elle m'a montré le cadavre de ma tante en me disant « Schau, Zeppel, regarde, Joseph, regarde ». Et je n'ai pas, en fait, cessé de regarder. Un psychologue, sans doute, aurait une explication aisée de tout cela, mais pour moi, c'est lié à mon écriture. Ma mémoire remonte jusqu'à cet instant, elle remonte jusqu'à cet âge de 3 ans, à cette image. Et, en quelque sorte, j'en ai déjà parlé 1000 fois, et sans doute que j'y reviendrai encore 1000 fois. C'est dans cet instant qu'a commencé ma vie, le visage de ma grand-mère morte. Et c'est donc, il y a une raison importante de cette approche d'enfant de la mort, de cette mort dont on ne sait rien. Chez Jean Genet, je crois qu'on pourrait dire à peu près quelque chose d'équivalent à propos de l'omniprésence de la mort. La nature, non, elle ne m'a jamais intéressé. En fait, peut-être que je la déteste. Je pourrais dire que je l'ai connue par Peter Handke. Depuis que je lis du Handke, je peux m'y intéresser. Il décrit par exemple une plante, et sa description de la plante est plus importante pour moi que cette plante que je vois pourtant tous les matins à Klagenfurt si je passe devant. Il y a par exemple dans une œuvre de Peter Handke, dans La perte de l'image, Bildverlust, une description d'une famille de hérissons. On pourrait dire, voilà, c'est ravissant, une famille de hérissons, tous ces petits hérissons. Et en fait, moi-même, j'ai vu une famille de hérissons quand j'étais en Hollande, au bord de la mer, donc pas tout près de l'eau, mais il y avait une famille de hérissons que très mignonne. Mais en fait, je pense plus à la description que donne Peter Handke, que à cette famille que j'ai vue près d'une plage en Hollande. C'est cela qui m'a impressionné. En fait, c'est de la littérature que je viens. Et pour moi aussi, la littérature donc vient de la littérature. On rentre en soi, on plonge en soi à la recherche de motifs. Alors certes, je regarde autour de moi, mais je n'observe pas au sens où ce serait une observation qui serait dans l'attente de quelque chose. Je regarde.
Mais Joseph Winkler, le roman Le Chant est aussi parcouru de d'autres courants, peut-être souterrains. Il y a cette présence de Karl May d'un côté, le qu'on appelle en français Charles May, qu'on a peut-être un peu oublié aujourd'hui, et notamment des aventures de Kara Ibn Nemsi que vous lisez quand vous êtes enfant. Et ça s'oppose, en tout cas se superpose avec d'autres flux de littérature, comme par exemple les poèmes yiddish absolument magnifiques de Reisel Zekminski. Comme si finalement il y avait aussi là-dedans un motif un peu du tapis dans lequel tous les textes littéraires finissaient par être liés ensemble dans un grand motif.
Also ein großer Schock für mich war als Kind, als ich mitgekriegt habe, dass der Lehrer für seine Söhne Bücher kauft. Dann habe ich meine Mutter gefragt, ob sie mir Geld geben kann, damit auch ich ein Buch kaufen kann. Und meine Mutter hat ihr ganzes Leben kein Buch gelesen, und sie hat gemeint, und das war ein großer Schock für mich, meine Mutter hat gesagt, für Bücher haben wir kein Geld. Und das war für mich also entsetzlich.
Il y a eu un grand choc pour moi quand j'étais enfant. J'ai appris que l'instituteur achetait des livres pour ses enfants. Et ma mère, elle, quelqu'un qui n'a jamais lu de livre, et je lui ai demandé de l'argent pour acheter un livre. Et elle m'a répondu, ici, il n'y en a pas d'argent pour les livres. Et cette réponse a été effroyable pour moi. À cette époque, donc, j'ai lu du Karl May, et un peu après, dans la province autrichienne, on a vu des films de Karl May, avec les films d'après Karl May, avec Pierre Brice, avec Lex Parker et tout ça. Et ces livres, en fait, heureusement qu'ils ont été diffusés après, parce que peut-être que si à l'âge de 4 ou 5 ans j'avais vu ces films, peut-être que je n'en serais pas arrivé au livre. Et donc, n'ayant pas d'argent pour les livres, je suis devenu un enfant criminel qui a volé de l'argent dans sa famille pour acheter des livres. Volé de l'argent à ma mère, volé de l'argent à mon père, par exemple pour acheter la peste de Camus. Pendant des années, j'ai volé de l'argent à mon père, un paysan qui en fait ne savait pas s'occuper d'argent, il avait de l'argent dans son portefeuille, mais voilà, il tâtait le portefeuille pour savoir combien il avait dedans, mais il ne s'apercevait pas qu'il pouvait manquer de l'argent. Et à partir de là, donc, la lecture a envahi mon existence. J'ai lu d'innombrables livres, et aujourd'hui encore, je me demande ce que je serais devenu si je n'avais pas lu et si je ne continuais pas à lire. Je découvre sans cesse, et en fait, ces écrivains et écrivaines sont devenus des personnes qui m'accompagnent.
Mais les poèmes de Reitzel Zyklinski, Joseph Winkler, et forment un espèce de contrepoint terrible, justement, à la présence souterraine des ossements d'Odilo Globochnik. Ils en sont un peu l'esprit, la vengeance, peut-être, dans le texte.
Ich habe auch, also bei diesem Buch musste ich, weil so viele Geschichten vorhanden waren, die ich wohl auch in einen Rhythmus bringen konnte, vielleicht etwas besser als früher, musste ich also eine Kapiteleinteilung machen, damit das Ganze nicht also wie so eine Salami, wie eine Wurst, also
Oui, pour ce livre qui est fait de nombreuses histoires, il me fallait trouver un rythme. Je ne pouvais pas faire en sorte que ce livre ressemble à une sorte de grand, de long saucisson. Il me fallait des subdivisions et des chapitres. Et par hasard, j'ai découvert donc un livre de poésie yiddish de la poétesse Reitzel Zyklinski dans sa traduction allemande. Et j'ai pensé que ce serait une sorte de provocation que de placer en tête de chaque chapitre un poème de Reitzel Zyklinski. C'est peut-être dû aussi au fait des histoires que j'ai racontées. Mon père, je ne peux pas dire que mon père était un nazi, mais son frère et son beau-frère, qui revenaient tous les ans à la Toussaint raconter des histoires, eux, oui, j'avais un oncle qui était dans la SS, et c'est là que j'entendais dire Hitler aurait dû en tuer deux fois plus, des juifs, etc. Et donc, de cette façon, dans la construction, j'ai relié cette poétesse yiddish à la littérature allemande. J'ai voulu placer ces poèmes qui sont si beaux et si émouvants de Reitzel Zyklinski. Thank you.
Étienne Chapoutot, je me tourne maintenant vers vous. Rebonjour.
Rebonjour.
Vous êtes historien, professeur à la Sorbonne, spécialiste de l'Allemagne et du nazisme, auteur de nombreux articles et ouvrages sur le sujet, parmi lesquels on peut signaler « La loi du sang, penser et agir en nazi », paru en 2014 et qui vous a valu le prix Yad Vashem l'année suivante, ou « Hitler, une biographie » en collaboration avec Christian Igrao, ou encore, très récemment, « Le monde nazi, 1919-1945 », en collaboration encore avec Christian Igrao et Nicolas Patin, somme de 640 pages, paru aux éditions Talendier. Ma première question, Johann Chapoutot, puisque nous avons la chance de vous avoir parmi nous, qui était Odilo Globocnik, dit Globus, dont les ossements infusent dans le roman de Joseph Winkler?
D'abord, j'aimerais dire que dégager les enjeux historiques de ce récit nous fait retomber un petit peu métaphysiquement, je trouve, après ce qu'on vient d'entendre de la part de Joseph Winkler grâce à Bernard Banoun et ce qu'on a lu également, puisque au fond, l'histoire, la philosophie comme les lettres, la littérature traitent de la même chose. Hein, elle traite du temps, elle traite de la mort. Et personnellement, j'aurais volontiers continué à écouter Joseph Winkler pendant des heures dans cette leçon de littérature. Globocnik, c'est un Autrichien, et il faut rappeler que les Autrichiens étaient surreprésentés dans la SS, comme s'il fallait montrer qu'on était plus royaliste que le roi. Et en l'occurrence, Globocnik, c'est non seulement un Autrichien, mais c'est quelqu'un qui vient des marges du royaume, il vient des marges de l'Empire, puisque son nom même le dit, hein, c'est un nom slave, Globocnik. Il vient de Slovénie par son père, il vient de Serbie par sa mère, et il a sans doute, peut-être, voulu montrer pendant toute sa vie et son activité qu'il était un Reichsdeutscher comme les autres, et même plus que les autres, c'est-à-dire un Germain et un citoyen du Reich plus que les autres. Et il s'est signalé très tôt, hein, par une forme de brutalité qui a signé toute sa carrière, ce qui en a fait un des protégés de Heinrich Himmler, puisque c'est un militant nazi de la première heure, hein, dès le début des années 20, et ensuite, il s'investit beaucoup dans le parti nazi interdit à partir de 1933 en Autriche, et il devient un des fers de lance de la germanisation de l'Autriche avant de devenir un des plus hauts responsables de la SS et de la police, en l'occurrence affecté au général gouvernement, c'est-à-dire au gouvernement général de Pologne, où il va être l'organisateur de la Shoah à partir du printemps 42, puisque c'est sous sa supervision que sont construits et qu'entrent en activité les centres de mise à mort de Belchek, Sobibor et Treblinka.
Il est aussi maire de Vienne, enfin Gauleiter, on dit à l'époque, pendant un moment. Et c'est quelqu'un d'assez surprenant, puisqu'il est toujours un peu à la frontière du crime. C'est-à-dire que c'est non seulement un criminel de guerre, mais c'est aussi, même pour les nazis eux-mêmes, un criminel, puisqu'il est condamné justement pour malversation financière, déjà à Vienne en 1939.
Oui, il a un profil socio-culturel intéressant, parce qu'il vient de la toute petite bourgeoisie fonctionnaire, hein, de ce qu'on appelle la Kaunka, hein, de l'Empire austro-hongrois. Son père était fonctionnaire des postes, et lui-même est allé jusqu'à la Matura, il est allé jusqu'au baccalauréat, mais ensuite il n'a pas fait d'études, enfin il a fait quelques petites études de commerce, et il a un profil à la Adolf Eichmann, hein, qui était lui-même également issu d'Autriche. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas fait de très grandes études, hein, on a bien montré, il y a des travaux importants, je pense à Michael Wildt, ou je pense à Christian Igrao, qui ont travaillé sur ce qu'on appelle la Führungsriege, hein, c'est-à-dire l'échelon supérieur de la SS, du RSHA, et qui ont montré que ces gens-là étaient bardés de doctorats et de formations universitaires d'excellence. C'est pas le cas de Globocnik, qui est une petite arsouille, en fait, hein, un petit manipulateur, quelqu'un qui a travaillé dans le privé, comme Eichmann, et qui est attiré par tout ce qui brille. Hein. C'est un homme qui aime le luxe, qui aime la grande vie. D'ailleurs, il va mener grand train, hein, dans le gouvernement général, et il fait partie de ces voleurs, de ces prédateurs qui poussent. On parlait de Jean Genet tout à l'heure. Jean Genet a bien montré dans le journal d'un voleur, justement, quand il parle de ses errances dans le Reich, il dit « mais moi je suis un voleur », mais en fait ils sont tous voleurs ici. Hein, le nazisme, c'est le vol, la prédation, la spoliation en permanence. Et bien Globocnik pousse ça jusqu'à son terme, puisque il fait partie des plus corrompus, au fond, dans la SS. Hein, il détourne de l'argent, il vole, il fait du trafic de devises, etc. Il va être d'ailleurs attrapé pour cela à plusieurs reprises, et il faut voir que dans la SS, on ne plaisante pas avec ça. Normalement, il y a des gens qui ont terminé devant un peloton d'exécution pour moins que ça. Mais Globocnik a toujours bénéficié de la protection de Himmler, de manière assez dans une économie de la faveur, comme ça, qui a assuré toute sa carrière jusqu'au bout, hein, au fond.
Il faut parler bien sûr un peu de sa période à Lublin, qui est le moment où il met en place. Alors il est pas tout seul à le faire, bien sûr. Hein. Il est associé avec Christian Wiert, Franz Stangl, ces gens qui sont un peu voilà aux commandes de cette fameuse action Reinhardt, qui va détruire ces millions de juifs.
Oui, la mission qui est attribuée à Globocnik, qui est nommé donc ce qu'on appelle HSSPF, hein, Hure SS und Polizeiführer, c'est-à-dire le chef suprême de la police et de la SS dans le district de Lublin au sein du général gouvernement, c'est une mission d'extinction de la judéité de la région. Et de fait, les trois plus célèbres centres de mise à mort dont il a la supervision, hein, Sobibor, Belchek et Treblinka, ont pour fonction de vider la région de son bassin de population juive. Et d'ailleurs, c'est une mission qui sera menée très rapidement et qui aboutira à la fermeture, hein, de ces centres de mise à mort une fois que seront asséchés, au fond, les bassins de population juive de l'est de la Pologne. Et Globocnik a cette mission-là qu'il va mener avec un conséquentialisme, une brutalité, une forme de... Il fait partie de ces nazis qui sont des antisémites rabiques, en fait. Hein. Il est obsédé par ça. Sans doute aussi, on le disait, parce que c'est un Autrichien et il vient des marges de l'Autriche. Il fait partie de ces gens qui ont une incertitude identitaire, si vous voulez, qui les rend d'autant plus violents et d'autant plus néfastes dans leur entreprise, de mort.
Et ensuite, une fois les camps fermés et détruits, Globocnik, avec ses complices, vont être envoyés de retour à Trieste, après 43, donc après la chute de Mussolini, la côte adriatique est annexée par l'Allemagne, gouvernée directement par les Allemands, et Globocnik est envoyé donc chez lui, en quelque sorte, oui, de retour à Trieste, cette fois-ci pour s'occuper de luttes antipartisanes. Et aussi d'autres affaires louches dans le secteur.
Oui, oui. Après avoir été ce que son biographe autrichien appelle der Manager des Todes, hein, c'est le titre de la biographie qui lui a été consacrée, le manager de la mort, il est envoyé dans une autre des grandes missions de la SS qui sont ce qu'on appelle la Partisanenbekämpfung ou la Terroristenbekämpfung, la lutte contre les partisans, la lutte contre les terroristes, en l'occurrence contre les résistants et essentiellement les résistants communistes. Et il revêt encore une fois la fonction de HSSPF dans la région adriatique, qui est la région d'origine de sa famille, puisqu'encore une fois, c'est une famille à la fois slovène et serbe, une famille du sud de l'Empire autrichien. Il retourne chez lui après avoir semé la mort. Et de ce point de vue-là, bon, il faut quand même dire que le livre de Josef Winkler est un choc, hein, est vraiment une quintessence littéraire, je trouve, parce que dans cette histoire d'ossements là, qui ressurgissent comme ça, avec ce poison qui diffuse, hein, Globocnik s'est empoisonné, mais ensuite c'est le poison du corps de Globocnik qui se diffuse dans la terre du village de Josef Winkler, de Zeppel en l'occurrence. Eh bien, il faut voir que moi, l'expérience que j'ai eue de l'œuvre de Globocnik, quand je suis allé à Birkenau, je regardais ce site, j'essayais de prendre conscience de l'endroit où j'étais, mais à un moment, pour me détourner un peu des ruines que les nazis avaient laissées, je me suis tourné vers de grands champs d'herbes comme ça, derrière moi, et j'ai observé plein de graviers. Et je me suis dit, tiens, c'est curieux, j'ai commencé à raisonner géologiquement, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a un sous-sol calcaire ici? C'est bizarre, du gravier. Donc je me suis penché, et j'ai ramassé ces graviers qui en fait étaient des ossements. C'est-à-dire que vous avez des champs d'épandage où vous avez plus de 900 000 personnes qui ont été broyées, dont les ossements ont été broyés, et qui se trouve à côté des crémas qui avaient été créés par les SS. Et vraiment, cette histoire d'ossements comme ça qui ressurgissent m'a fait penser tout de suite à l'œuvre de Globocnik.
Globocnik donc arrive à Trieste en 43. J'ai lu que peut-être on l'aurait envoyé justement parce que c'était dangereux et qu'on voulait aussi se débarrasser de ces gens de cette action Reinhardt qui avaient tant de sang sur les mains qu'on préférait qu'il soit assassiné par des partisans plutôt qu'être comme ça au grand jour.
Non, en réalité non, parce que la mutation des fonctions, la mutation fonctionnelle et géographique fait partie du principe des ressources humaines, comme on disait déjà à l'époque, de la SS, hein, où on alterne travail de bureau, travail de génocide et travail de lutte antiterroriste, donc une police musclée plus traditionnelle. Et donc c'est au fond un profil de carrière assez emblématique d'une carrière SS, et également d'une génération, parce que ce qui m'a frappé, c'est quand date, Joseph Winkler a dit que son père aurait 120 ans aujourd'hui. En l'occurrence, il est né vers 1904, donc d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est exactement l'année de naissance de Globotchnik. Hein. C'est vraiment cette génération qu'on a appelée, du côté de la SS, la génération de l'absolu, hein, Generation des Unbedingten. Je reprends là le titre de l'HDR, de l'habilitation de Michael Wildt. Ces gens qui étaient conséquentialistes et qui obéissaient à ce que, de mon côté, j'ai pu appeler la loi du sang.
Et donc, finalement, c'est là aussi qu'ils vont mourir. Christian Wirth, par exemple, va être victime d'un attentat, d'un accrochage avec des partisans en Slovénie. Globotchnik, effectivement, à la fin de la guerre, va se suicider, donc en essayant de s'enfuir en Carinthie. Et il y a que Franz Stengel qui, lui, mourra en prison quelques années plus tard.
Oui, oui. Et alors la fin de Globotchnik, elle est là aussi assez emblématique d'une carrière SS, puisqu'il est reconnu dans un camp de prisonniers, il est assez imprudent pour répondre à l'appel de son nom, et comme il avait pris les devants, il avait cette pilule de cyanure hein, qui faisait partie de l'équipement standard, si vous voulez, des officiers supérieurs de la SS pour en terminer. C'est ce que Himmler a fait, par exemple. Hein. Il a fait craquer sa pilule de cyanure. C'est ce qu'a fait Globotchnik avant de se retrouver dans un champ, dans le village de Joseph Winkler, ce qui donne l'occasion, et je pense que ça nous permet de revenir à ce texte qui... Quand on prend le titre allemand, Lass dich heimgeigen, laisse-toi conduire par la musique du violon, en gros, hein, d'après ce que je comprends, on a affaire en fait à une Totentanz, à une danse macabre. C'est une danse macabre à laquelle Joseph Winkler nous invite, mais pour mieux célébrer la vie, parce que de fait, la littérature, elle se confronte, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, il faut se confronter à ce qui est le plus important pour soi, parce que sinon on en crève en fait. On en crève, et je trouve que c'est un superbe hymne à la vie dont la poésie yiddish qui entrecoupe hein, le récit et au fond le témoignage.
Bernard Manoun, je me tourne vers vous. Vous êtes le traducteur de Joseph Winkler depuis de nombreuses années, mais vous êtes aussi universitaire, spécialiste de littérature allemande. Et vos intérêts vont de littérature de Carinthie jusqu'à la poésie de Post-Celan ou l'œuvre d'Elfriede Jelinek ou encore de Lutz Seiler. Et vous avez consacré il y a 2 ans dans la revue Europe un dossier à Joseph Winkler. Et vous intéressez aussi beaucoup à la théorie de la traduction. Mais là, j'aimerais vous interroger, en tout cas vous poser la question sur finalement cette affaire de l'infusion des eaux nazies dans le sol et dans la littérature allemande, c'est quand même la grande affaire des littératures germaniques, autrichiennes ou allemandes depuis 2 générations maintenant.
Oui, sans doute. En tout cas, alors je voulais rajouter une petite chose, c'est qu'en fait il y a eu deux autres traducteurs. Éric Dortu a traduit plusieurs livres de Winkler, et puis Olivier Lelay un livre, voilà, pour rendre à César ce qui est à César. Alors en effet, et pour essayer de prendre la suite de ce qu'a dit Johann Chapoutot, c'est vrai que la littérature peut aussi avoir une sorte d'entre guillemets de discours sur l'histoire, et que elle est une forme de l'histoire et de mémoire parallèle. Et dans la littérature de langue allemande, en effet, ce rôle de que joue la littérature dans cette manière de refaire sortir du non-dit, des drames, des traumatismes, elle est très importante, et elle est très importante donc évidemment par rapport à la Shoah, et ce qui l'a peut-être fait, qui lui a donné un nouvel élan, c'est aussi l'ouverture à l'est. Donc ouverture à l'est, ça veut dire bien sûr la chute du mur, donc la partie RDA où justement le rapport au passé est tout à fait différent de ce qu'il avait pu être en RFA, et aussi tous les espaces centre-européens et russes qui sont les espaces dominés par les nazis à l'époque. Et donc dans ce livre-là, justement, je trouve que le fait que Joseph Winkler ait utilisé les poèmes de Reisel Zichlinski, c'est aussi une sorte d'ouverture vers ce continent perdu. Et Reisel Zichlinski, qui était donc polonaise, qui après la guerre en 47-48 a essayé de s'installer en Pologne, qui est repartie tellement c'était épouvantable, qui a vécu à Paris, Et avant de partir au Canada et aux États-Unis, où finalement, mais il a toujours continué à essayer en yiddish. Tout ça, c'est cette espèce de continent encore immense. Et on voit bien que voilà, maintenant, 80 ans après, pour tous ces pays, que ce soit des pays dont on parlait un peu moins, comme l'Ukraine, les pays baltes, etc., que toutes ces questions-là sont encore, vraiment enfouies sous terre. Il y a un documentaire, malheureusement, le nom m'échappe d'un documentariste lituanien.
On le mettra sur le site des gens, de l'émission.
Ou qui montre une femme qui dit mais la dent là que j'ai c'est la dent d'or d'un juif.
Mais c'est justement un peu ce continent aussi perdu, justement quelque chose de souterrain que la littérature permet de remettre au jour, que ce soit pour les bons ossements entre guillemets, comme ceux de la poésie yiddish, ou aussi de ce qu'on voudrait pas voir, mais qui a quand même été là pendant toutes ces années. Et est-ce que aujourd'hui il y a justement un peu à l'image du roman Le Chant de Joseph Vinclair, un retour voilà, de ces découvertes, ou en tout cas des reconsidérations aussi du côté du mal.
Je pense que ça c'est un travail littéraire qui a commencé en fait il y a assez longtemps maintenant, beaucoup plus longtemps que ce qu'on ne croit, hein. C'est-à-dire que toutes ces guerres, il y a eu des témoignages d'époque, il y a eu des livres importants de l'époque qui souvent n'ont pas été reçus, et que maintenant donc de nouveau on en écrit de nouveau, qui se réfère à ces textes anciens. Et bah les textes comme ceux de Joseph Vinclair, tout à l'heure il disait que justement Bernhard disait voilà, moi je vous parle de choses, peut-être que vous n'avez pas envie qu'on en parle, mais moi je vous en parle et je continue à vous en parler. Il y a cette espèce d'obstination, et c'est vrai que les Autrichiens aussi, peut-être par la manière dont ils manient la langue, sont des personnages beaucoup plus obstinés et qui vont creuser, ressasser. Alfred Jelinek aussi, hein, dont les textes sont son roman L'Enfant des Morts, Enfant des Morts, voilà, c'est aussi peuplé de morts vivants, et donc et elle-même se qualifie par la métaphore de l'ange exterminateur. Donc en fait voilà, elle revient pour exhumer ces cadavres et mettre face à la présence du mal. Oui.
Et Bernard Banon, pour en venir à la traduction plus précisément du récit de Joseph Vinclair, Le Chant, ça doit être extraordinairement difficile, parce que quand on lit, c'est un chef-d'œuvre absolu, mais aussi là on touche à la terre, et donc aussi à la façon de parler, au dialecte, à différents registres de langue très très divers. Comment est-ce que vous avez procédé?
En fait, ça fait quand même plusieurs années que je traduis des textes de Joseph Vinclair. Donc, il y a par exemple une des caractéristiques de son œuvre, c'est qu'il fait des phrases très très longues, souvent, avec des phrases donc avec une hypotaxe, beaucoup de propositions subordonnées. Donc, et bien sûr, les systèmes des deux langues françaises et allemandes sont tout à fait différents. Donc, il faut s'en sortir de manière à garder quand même un rythme. Donc, ça, c'est assez compliqué. Et moi, je ne coupe jamais de phrases. Et en effet, dans ce texte-là, parce qu'en fait, Joseph Vinclair, c'est comme personne, il ne parle qu'allemand et il écrit qu'en allemand, mais en fait, ses textes sont souvent quand même très polyphoniques. Et là, notamment, donc, il y a des expressions en dialecte, et puis il y a aussi des mots que j'ai finalement décidé de garder, qui est la manière dont il désigne le père et la mère, qui donc Tate und Pape, Tate und Mame, qui sont donc les termes courants là-bas, que j'ai décidé de garder en l'expliquant dans la note du traducteur à la fin, parce que bien sûr, pour moi, ce dialecte, je sais bien que en fait, je l'entends moi parce que je l'ai déjà entendu en vrai, et que quelqu'un qui parle français qui ne parle pas allemand, c'est pour comme ces gens-là que l'on traduit en particulier, eh bien ils ne vont pas l'entendre, mais malgré tout on a laissé ces traces d'oralité qui justement sont à la fois à mi-chemin entre le caractère extrêmement affectueux, la dimension affective de ces termes, et en même temps qui renvoie à toute cette histoire de cette génération, le père à la guerre et la mère dont les trois frères sont morts. Donc il y a cette langue, elle est aussi elle contient aussi ce passé, cet espace
travaillé par la mort.
Absolument, travaillé par la mort. Oui.
Il y a ce titre alors assez mystérieux dont oui. Johann Chapoutot parlait, parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette expression?
Oui, alors ça, en fait, le chant, c'est venu après un grand nombre de discussions, et finalement c'est Joseph Winkler lui-même hein, qui a choisi, proposé et choisi le titre Le Chant. D'ailleurs, un jour,
le chant AMP,
AMP. Voilà. Et d'ailleurs dans un message un jour il m'a dit voilà donc mon livre Le Camp. Alors j'ai dit bon non, ce sera pas Le Camp, ce sera Le Chant. Voilà, mais le titre allemand est un livre, le titre qui s'appelle donc le livre s'appelle Lass dich heimgeigen Vater oder den Tod ins Herz mir schreibe. C'est un titre très très long et en fait l'expression du début qui veut dire Lass dich heimgeigen, qui a le mot geige dedans, violon, c'est une expression qu'en fait beaucoup, que peu de gens connaissent. Le lecteur de Joseph Winkler aux éditions Zurkamp, Heinrich Müller-Schwefel, je lui ai demandé au début mais qu'est-ce que ça veut dire, il dit mais en fait je le connaissais pas avant. Et moi, en fait, en discutant avec des Allemands, en fait, c'est une expression. Il y a le mot violon, mais en fait, j'ai vraiment rien trouvé en français. Hein, j'avais proposé dans la note casse-toi, dégage. C'est ce qu'on dit à quelqu'un. Lass dich heimgeigen, c'est une expression assez courante, familière, mais pas bienveillante du tout, disant allez voilà fiche le camp. Et donc cette expression, le titre traduit littéralement, ça veut dire casse-toi père, ou dans mon cœur, ou bien dans mon cœur inscrit la mort. Et dans mon cœur inscrit la mort, ça c'est un vers de cantique catholique. Donc voilà le titre à rallonge là en français, je crois que ça n'aurait pas fonctionné.
Oui, alors que le chant, c'est justement extrêmement visuel et ça fonctionne tout à fait. Mmh. Alors, on revient un peu à ce que le roman fait. Hein. Au moment où Globotchnik se tue, et là je me retourne vers vous, Johann Chapoutot, on pourrait croire que l'effondrement un peu met un terme au nazisme, dont il ne resterait que les ossements un peu dans le sol. Et vous écrivez, Johann Chapoutot, un phénomène aussi puissant et enraciné ne s'est pas dissipé ni évaporé avec la défaite militaire du Reich et l'écrasement de l'Allemagne en 45. Et c'est la vraie question posée par le roman, en fait. Qu'est-ce que devient, que ce soit les ossements ou le personnel nazi, que devient le nazisme après 45?
Oui, si on use d'une métaphore contemporaine, on pourrait dire que ces ossements sont radioactifs, hein, de fait, parce que leur effet méphitique, néfaste, se diffuse hein, dans tout ce village dont on sent, dans tous les romans de Winkler, dont on sent la violence. Hein, on est vraiment quasiment dans le ruban blanc, si vous voulez, même si on n'est pas en Prusse orientale, on est en Autriche, on voit des hommes brisés et brisants, on voit des hommes violents qui frappent les enfants, qui détruisent les enfants, etc. On voit tout ce fascisme au fond, dont l'Autriche ne s'est pas purgée, puisque, de fait, Bernard Banneux ne sait bien mieux que moi, après 45, il y a eu cette espèce de mythe d'affabulation mémorielle qui a consisté à dire que on était victimes, nous aussi, puisque l'Anschluss, vous comprenez, en était annexé, alors que, encore une fois, je le disais tout à l'heure, la participation des Autrichiens au crime nazi, avec la surreprésentation dans la SS notamment, est bien avérée. Donc, effectivement, la littérature traite de ça un peu avec une inspiration catholique, parce qu'au fond, l'effet, l'irradiation des ossements, c'est un peu comme quand on est enterré ad sanctos hein, dans les églises, où c'est-à-dire au plus près des reliques. Et là, c'est une relique noire, c'est une relique néfaste qui n'en finit plus d'irradier dans l'Autriche. Et c'est une métaphore très juste au fond de ce que le nazisme a fait à l'Occident, c'est-à-dire que on n'en a pas fini avec ce truc-là. On peut en finir en jouant aux Autrichiens au fond, en disant après 45 ça s'est dissipé, la démocratie a gagné sur la dictature, le bien sur le mal, l'universalisme sur le racisme, etc. Mais tout ça, ce sont des fables. Hein, ce sont des fables quand on voit les continuités de personnel qu'il y a pu y avoir en Allemagne, c'est très clair, en Autriche encore plus, en France aussi. On l'a vu avec le procès Papon. Hein, le passé a un avenir très très long. Hein, finalement, et on le voit dans les travaux d'historiens contemporains qui montrent à quel point les continuités, de fait, mais c'est normal en histoire, depuis le paléolithique au fond, les continuités l'emportent très largement sur des ruptures qui sont, pour le coup, très profondément fantasmées.
Et ce qu'on voit bien aussi, Johann Chapoutot, dans le roman de Joseph Winkler, c'est ce rapport au catholicisme qui, ne préserve pas du tout finalement de alors que au contraire dans le ce que vous écrivez dans le rapport des nazis au catholicisme, c'est que au contraire ils cherchent à s'en débarrasser absolument.
Oui, alors pour les nazis ça c'est effectivement une partie de la loi du sang. Pour les nazis, le catholicisme, le christianisme en général, c'est du judaïsme rebouilli, hein, et de fait les valeurs transmises à la germanité, disent-ils, par les chrétiens sont des valeurs qui viennent des juifs pour tuer la race au fond, hein, la monogamie, la compassion, la pitié, le soin de l'autre, etc. Ludendorff disait, hein, qui était devenu un völkisch, un ethno-nationaliste radical dans les années 20, disait au fond, on aurait gagné la Première Guerre mondiale si on n'avait pas été chrétien, hein, si on s'était battu selon les lois de la nature. Donc les nazis ont cette ambition-là, mais pour après la guerre, puisque en attendant, les principaux nazis, quand on prend Goebbels, Himmler, Hitler, qui ont une socialisation catholique, soit de l'Ouest pour Goebbels, soit du Sud pour Himmler et Hitler, sont des gens qui sont conscients de la puissance du catholicisme en particulier, du christianisme en général, et sont conscients également des points de contact qu'il peut y avoir entre nazisme et christianisme, c'est-à-dire anticommunisme, homophobie, misogynie, nationalisme, racisme, antisémitisme, etc., etc., conservatisme. On peut donc faire alliance objective, au fond, avec les chrétiens, dont on va se servir comme idiot utile, pour ensuite mieux leur faire la peau après la Nachdem Enzik, comme on disait, après la victoire finale. Mais en attendant, on fait affaire avec, et ça s'est matérialisé notamment par la prière conjointe de la conférence des évêques catholiques de Fulda et protestantes en Allemagne. Lorsque le 22 juin 41, les nazis attaquent l'URSS, il y a vraiment des actions de grâce, hein, pour le succès de la croisade contre le bolchevisme. Et au fond, cette épistémée chrétienne n'a certainement pas préservé les gens du nazisme, bien au contraire, hein, des fervents partisans au fond de l'union entre christianisme et nazisme. C'est d'ailleurs un Autrichien, hein, Monseigneur Alois Huber, qui était le recteur de Collegium Teutonicum de Rome, qui a servi ensuite, après 45, comme plaque tournante d'exfiltration de toutes les pires ordures, au fond, nazies, qui passaient par ce qu'on appelait la route des monastères, hein, qui arrivaient au collège teutonique de Rome et qui partaient ensuite vers l'Amérique latine grâce au tampon du Saint-Siège et de la Croix-Rouge.
Mais le cas de l'Autriche est peut-être justement assez différent, puisque en Allemagne, il y a quand même cet affrontement entre protestants et catholiques. On sait à quel point l'État allemand du bismarckien, on va dire du premier âge, se construit contre les catholiques, alors que en revanche, en Autriche, on pourrait croire que justement le ferment catholique, c'est ce qu'on voit dans le livre de Joseph Winkler, cherche à pourrait se chercher à s'auto-dénazifier en quelque sorte, alors que c'est pas du tout le cas.
Non, parce qu'encore une fois, l'Église catholique qui dispose effectivement en Autriche d'un imperium comparable seulement à la Pologne ou à la Croatie au fond. Hein, l'Église est très très puissante en Autriche encore aujourd'hui. Cette Église catholique s'est rangée dans un aggiornamento exemplaire, au fond, à partir de 1938, au nazisme. Auparavant, elle était opposée au nazisme pour des raisons politiques, parce qu'elle était plus proche de ce qu'on appelait le Ständestaat, hein, l'État corporatif national catholique des Dollfuss et des Schuschnigg, qui étaient des fascistes, mais qui n'étaient pas des nazis au sens allemand. Mais une fois que, au fond, les nazis sont arrivés en 1938, l'Église a fait affaire avec eux. C'est pas un problème, puisque aussi bien, on se retrouvait sur l'essentiel. Hein, et la compromission lamentable d'un Pie XII jusqu'au bout, au fond, hein, et même jusqu'après 1945, vis-à-vis du nazisme et des crimes nazis, montre bien à quel point, hélas, un certain catholicisme, au rebours de toutes les leçons de l'Évangile, si on veut être un petit peu exégète, eh bien, ce catholicisme-là s'est compromis de manière lamentable, et l'Église autrichienne en est un bel exemple.
Pour conclure, Johann Chapoutot, vous écrivez à la fin du monde nazi, Johann Chapoutot, quelque chose d'assez terrible, mais qui recoupe justement un peu le sentiment qu'on peut avoir en lisant le roman de Joseph Winkler, Le Chant. Vous parlez de ce quotient d'aveuglement dont nous avons recouvert le phénomène nazi depuis 1945. Ce quotient d'aveuglement, c'est un peu cette terre, hein, qui a recouvert cette terre de Carinthie, qui a recouvert les ossements d'Odilo Globotchnik.
Bien justement, les vrais écrivains, la bonne littérature, les vrais philosophes, les bons historiens peuvent nous aider à décaper cet aveuglement et à nous faire voir un petit peu mieux, un petit peu plus en face, ce qui au fond constitue notre modernité, une modernité criminel qui a su accoucher de cette horreur ultime à date, hein, qu'est le nazisme.
Mais est-ce que c'est une façon de les désactiver, ces ossements, pour parler encore de radioactivité?
Je ne pense pas, du point de vue intime et personnel, non, parce que Joseph Winkler le disait, il reviendra encore sur cette question, parce que c'est la dialectique d'une vie, si vous voulez, que de se confronter à ça. Pour ce qui est de l'histoire des historiens et de leur valence, on va dire politique ou civique, j'ai bon espoir par contre qu'on arrive à progresser quand même et que au fond, de texte en texte, de sédimentation en sédimentation, d'intervention en intervention, on arrive quand même à faire sortir pas mal de cadavres du placard, pour reprendre une métaphore assez congruente, et pour arriver à décaper au fond ces affabulations nécessaires dont on s'est drapé depuis 1945, qu'on appelle des mythes, hein, qui sont de fait des mythes, et qui nous ont aidés à survivre jusqu'ici en tant qu'Occidentaux avec ça. Parce que c'est de fait du cœur de l'Occident qu'est venu le crime à date, hein, le crime ultime, c'est-à-dire la Shoah. Voilà. Et ça, on a tout fait pour s'en disculper, hein, en disant que les nazis étaient fous, qu'ils venaient d'ailleurs, que c'était des Germains des forêts, que je ne sais pas quoi. Or, désolé, mais l'Allemagne nazie, c'est le cœur de l'Europe au cœur du XXe siècle. Et on peut pas multiplier les circonlocutions autour de ça. Il faut bien s'y confronter, sinon, de fait, on vit dans quelque chose qui est inauthentique et qui est pathologique. Et c'est à cette pathologie-là que la littérature de Joseph Winkler s'affronte.
Merci beaucoup, Johann Chapoutot. Merci beaucoup, Bernard Manon. Et surtout, merci beaucoup, Joseph Winkler. Je rappelle que Le Chant est paru aux éditions Verdier et traduit par Bernard Banoun. Cette émission était réalisée par Camille Maty, avec Florent Bujon à la technique aujourd'hui. Merci à Aurélie Marsac qui m'aide à la préparation. Nous serons là de nouveau samedi prochain, mais d'ici là, vous pouvez réécouter tous les épisodes de la conversation littéraire sur l'appli de Radio France ou le site de France Culture.